Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hello à tous, c'est Laurita, plus connue sous le nom de Laurita Socaliente sur les réseaux sociaux. Coach certifié et multi-entrepreneur, je partage quotidiennement avec des milliers de personnes des astuces de développement personnel pour les aider à révéler pleinement leur potentiel infini. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir sur ce podcast Yann Piettre, qui est absolument expert des relations entre les hommes et les femmes et qui se fait un plaisir de nous coacher et de répondre aux principales questions que l'on se pose. Vous aurez également l'occasion de retrouver Yann lors d'un coaching de groupe sur Wake Up, mon tout nouveau programme de self-coaching, pour obtenir les réponses à vos questions personnalisées. Toutes les informations se trouvent dans les notes du podcast. Je vous laisse donc avec Yann. Bonjour Yann, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
Salut Laurita.
Est-ce que tu peux commencer par te présenter pour poser les bases de cette conversation qu'on va avoir tous les deux ?
Oui, bien sûr. Alors moi, je travaille sur les relations amoureuses depuis 2010. Ça fait un moment déjà, donc j'ai consacré ma carrière dans un premier temps aux hommes célibataires et au bout de quelques années, je me suis consacré aux femmes, fort de mon expérience avec les hommes, et je le fais via ma chaîne YouTube qui s'appelle « L'homme expliqué ». Comme son nom l'indique, je vais décrypter le comportement masculin dans les rencontres et dans les relations amoureuses, et également à travers mon livre qui s'appelle « Comment mettre un homme dans votre poche » chez Hachette, et puis évidemment sur mes réseaux sociaux, etc., etc.
Trop bien. De toute façon, je mettrai toutes tes infos si les gens sont pas. Ok, donc toi, t'es un peu l'expert, entre guillemets, et de la psychologie féminine et masculine, finalement.
Ouais, c'est exactement ça.
Et alors du coup, j'ai plein de questions pour toi évidemment, tu t'en doutes. Quelles sont les erreurs les plus communes que tu observes chez les femmes qui viennent te voir ou chez les femmes que tu coaches ou... Quelles sont les plus communes ?
Alors en fait, la chose que je pourrais aborder, c'est pas tellement une erreur, c'est plus une omission, on va dire, ou une chose qu'on ne sait pas bien faire qui consiste à lire l'intérêt et à lire les intentions de l'autre personne. Beaucoup de mes abonnés ou de mes clientes viennent me voir parce qu'elles ont un problème avec un homme. Elles ne savent pas en fait dans quelle direction elles vont. Et mon outil principal pour ça, c'est de leur apprendre à lire l'intérêt masculin. Et c'est pas évident de lire l'intérêt masculin parce que finalement, quand on est très attiré par une personne, eh bien, déjà, on a envie que ça se passe avec cette personne. Donc, on va avoir tendance à rationaliser.
On voit les signes qu'on veut voir aussi.
Voilà, exactement. Il va y avoir un deuxième truc, c'est que les hommes ne vont pas communiquer clairement sur leur niveau d'intérêt. Ils vont pas dire voilà comment je suis vis-à-vis de toi, voilà à quel point tu m'intéresses. Ils vont rester flous.
C'est par ego, par pudeur.
Non,
par...
c'est tout simplement une problématique sexuelle en fait. C'est-à-dire que les hommes vont maquiller leur niveau d'intérêt quand ils sont pas follement intéressés par une femme parce que simplement ils ont envie de continuer à fréquenter cette femme. Tout simplement.
D'accord.
Comme on n'a pas forcément le même rapport à la sexualité ou la même façon de la ressentir, eh bien, ça va créer de l'incompréhension, ça va créer de la douleur chez une femme qui a l'impression, elle, d'être que le mec la garde sous le coude. On a cette impression qu'il y a une part de machiavélisme comme ça, en disant « Ah, il s'est foutu de ma gueule », etc. C'est juste qu'en fait, on n'a simplement pas la même façon d'appréhender la sexualité.
D'accord. Pour justement éviter de faire ça, si je suis une femme et que du coup j'ai une target, un crush, ouais, comment est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je devrais faire ?
Tu vas apprendre à lire le niveau d'intérêt de ton crush et tu vas apprendre à le faire très tôt parce que un homme va à travers ses actions, va te montrer très tôt quel est son niveau d'intérêt. Typiquement, imaginons que tu rencontres quelqu'un. Aujourd'hui, beaucoup de gens se rencontrent sur les applications, d'accord ? Les études sur Internet disent que c'est la moitié. Moi, je dirais que c'est dans les grandes villes, je dirais que c'est plutôt 80-90% des rencontres. Tu vas rencontrer ton crush, vous allez avoir une première rencontre. Déjà, il faut pas oublier que cette première rencontre, ça n'est qu'une rencontre. Cette personne, ça reste un inconnu. Toi, t'es une inconnue pour lui. Donc en fait, là déjà, on se voit pour la première fois, c'est pas un rendez-vous, d'accord ?
Ouais.
Mais par contre, tu vas pouvoir commencer à lire le niveau d'intérêt de cet homme juste après la rencontre. Tu vas simplement observer une chose. Tu vas regarder à quel moment il te propose le véritable premier rendez-vous. Et déjà, en fait, le temps que ça va prendre pour lui de te proposer et sous quelle forme il va te proposer ce rendez-vous, eh bien, ça va t'apprendre beaucoup de choses. Soit tu vas avoir un mec qui, par exemple, va te rencontrer un samedi après-midi, vous allez faire une promenade tout bête, ok, buvez un café, et tu vois que dimanche, rien, lundi, rien, mardi, rien, et mercredi, te propose de te voir le soir même. C'est pas la même chose que tu vois cet homme samedi après-midi, et dès le dimanche soir, il t'a proposé un rendez-vous en bonne et due forme pour jeudi soir, avec une heure précise, un lieu précis.
D'accord.
Déjà, en fait, t'as la notion, tu lis des choses, en fait. Tu vois à quel point le mec te priorise, à quel point il va chercher à sécuriser le rendez-vous. Et ça, ça en dit énormément sur son niveau d'intérêt. Et c'est un signe, en fait, qui passe souvent à la trappe pour beaucoup de femmes.
Clairement. Parce que je pense qu'en fait, on attend, on se dit, ah, il m'a pas écrit, voilà.
On trouve une excuse. Oh, il a beaucoup de travail. Il m'a dit que. Parce que, encore une fois, je disais tout à l'heure, un homme va maquiller son niveau d'intérêt. Il va dire des choses qui vont te mettre sur la mauvaise piste. Ah, il m'a dit qu'il était très occupé. Bah oui, forcément, il cherche à maquiller son niveau d'intérêt. Donc, il va envoyer des signaux un peu contradictoires. Il va t'expliquer de façon rationnelle. Il va te donner des raisons qui sont tout à fait claires et compréhensives pour t'expliquer son comportement. Alors qu'en fait, son comportement vient d'un désintérêt.
D'accord. Et alors, dans le cas où on passe notre après-midi, notre samedi après-midi, et admettons que cet homme soit extrêmement intéressé, comment est-ce que je le vois ? Comment je le sais ?
Mais en fait, son niveau d'intérêt, tu vas le lire sur la durée, en fait. Tu ne pourras pas... cet homme te découvre à la même vitesse que toi, tu le découvres. C'est-à-dire que vous faites un premier rendez-vous, ça se passe super bien, puis vous en faites un deuxième, t'apprends des choses sur lui, il apprend des choses sur toi. Il n'est pas exclu que dans les 3-4 premiers rendez-vous, bah, ils apprennent des choses sur toi et puis finalement ils changent d'avis. Tu vois, c'est tout à fait possible. De même que toi, tu vas te dire, tiens, je sais pas, par exemple, un moment qui est intéressant, la première fois que tu vas aller chez lui, tu vas apprendre énormément de choses sur lui. Tu vas apprendre son rapport à l'hygiène, tu vas apprendre comment il gère son espace, tu vas voir par plein de petits trucs, tu vas pouvoir deviner quelles sont ses habitudes de vie. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que le niveau d'intérêt, que ce soit le tien ou le sien, va évoluer au cours des premiers rendez-vous. Dans le scénario idéal, votre intérêt à tous les deux ne cesse de croître. Okay.
Ouais, ok.
Et ça, tu vas le voir en fait de plein de manières. Tu vas voir que typiquement, tu vas sentir une progression dans tes rendez-vous. Un homme qui est intéressé, en fait, les rendez-vous vont progresser, son investissement va aller croissant et il va y avoir une forme de régularité, voire même d'augmentation. C'est-à-dire que d'abord, on se voit une fois par semaine, ensuite, on se voit un peu plus longtemps, les rendez-vous deviennent un peu plus longs, un peu plus créatifs, un peu plus exigeants. Ça va pas plafonner, voire régresser. Déjà, le fait d'essayer de se représenter les rendez-vous par une courbe, en fait, qui va croître ou décroître selon différents paramètres, le temps passé ensemble, l'intensité du rendez-vous, bah, en fait, ce simple petit exercice permet en fait de prendre le recul nécessaire et de dire là on va vers quelque chose qui ressemble à une relation ou on va vers quelque chose qui ressemble à un plan cul.
D'accord. Et ça c'est le début de relation. Et après, parce que je pense qu'il y a pas mal de personnes qui sont aussi en couple mais qui ne vivent pas des relations à 100% épanouies, est-ce que ça c'est aussi quelque chose que tu fais, que tu coaches, que tu...
En fait, si tu veux, moi les conseils que je donne, je donne aussi bien des conseils aux personnes célibataires qu'aux personnes qui sont en couple. Par exemple, j'ai un club privé sur lequel mes abonnés en fait vont m'interroger, je vais répondre directement. Donc en fait, si je regarde un petit peu les vidéos que je fais sur 2 mois, c'est-à-dire 8 vidéos, bah, je vais parler de tout là-dedans. Il va y avoir du développement personnel, je vais parler de comment épanouir sa relation en couple, je vais parler de comment faire de nouvelles rencontres, etc., etc. Donc maintenant, en fait, si tu veux, si je veux recoller ça à la question sur le niveau d'intérêt, en fait, il est là en permanence. Une personne qui va rompre avec l'autre, c'est que son niveau d'intérêt est descendu. Mmh, un homme qui va se remettre à chasser, entre guillemets, quand je dis chasser, c'est un terme un peu tribal, mais pour dire qu'il va s'ouvrir à de nouvelles rencontres, alors qu'il est encore en relation, ouais. Son niveau d'intérêt est descendu.
Ok. Et alors, comment le maintenir?
Mais là, je pourrais te faire un podcast de 3 heures, si tu veux.
J'imagine.
Non, mais comment le maintenir? Si je devais donner un conseil, parce qu'il y a un mot que tu as dit que j'aime bien, le mot maintenir, une relation, en fait, il y a cette notion d'entretenir. C'est comme un jardin, en fait. Ton jardin, t'as planté des trucs, tu ne peux pas te dire, tiens, je vais partir en vacances pendant 3 mois et je vais revenir et les fruits, ils auront poussé. Donc, il y a cette notion de maintenir.
Dans les couples, tu ne peux pas demander à ton voisin de venir arroser ton jardin, clairement.
Parce que là, du coup, effectivement, si ton voisin vient arroser, c'est toute autre chose. mais en fait, alors, tiens, une chose qui est très importante, typiquement pour les gens qui sont en couple, que les gens oublient de faire ou vont arrêter spontanément, ils vont arrêter de faire des rendez-vous. Et ça, c'est désastreux pour la relation. C'est-à-dire qu'en fait, au bout de quelques mois seulement, hein, en général, moi, c'est ce que j'observe chez les gens qui se mettent en couple, eh bien, il n'y a plus de notion de rendez-vous. C'est je vais squatter chez elle ou alors elle vient squatter chez moi, on passe du temps, les gens vont dire on chill. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, on chill? Si tu veux être toute seule, t'es toute seule. Si tu fais un truc avec l'autre, aie de la présence à l'autre. Mais ça ne sert strictement, enfin, c'est pas que ça ne sert strictement à rien. Il y a des moments, bien sûr, quand on est en couple, notamment quand on habite ensemble, où on se voit et on ne fait rien à proprement parler. Mais ça ne vient pas en remplacement d'un rendez-vous. Un rendez-vous, c'est de la présence à l'autre. Ça se conclut la plupart du temps par de l'intimité. On va dormir ensemble, on va coucher ensemble. C'est très clair, en fait, quand on commence à rencontrer quelqu'un. On ne se voit qu'en rendez-vous au début. Et ensuite, les choses se troublent un petit peu. Donc, s'il y a des filles qui écoutent ce podcast et qui sont en couple depuis un moment, elles peuvent simplement chercher à réenclencher un processus de rendez-vous, même si elles habitent avec, surtout si elles habitent avec leur mec, de se dire, une fois par semaine, on va passer un moment de qualité avec l'autre personne. Et ça veut dire que dans ce moment de qualité, il n'y a pas d'interférence. Il n'y a pas de téléphone portable.
Pas Netflix.
Voilà, il n'y a pas de Netflix, en fait. Y a pas de... On fait quelque chose avec l'autre.
Avec mon conjoint, je fête les mois anniversaires. Tu vois, ça me fait... Donc, c'est une fois par mois. Mais au moins, une fois par mois, on sait qu'on se retrouve et on fait quelque chose. Alors, quelque chose, ça peut être... C'est pas obligé de dépenser de l'argent, c'est ce que tu dis, en fait. C'est pas forcément aller au resto ou au ciné. C'est juste passer du temps ensemble.
C'est ça. Mais toi, Laurita, par exemple, t'as fait un truc qui est très intelligent. C'est que tu as ritualisé, t'as donné un mot pour ça. Tu vois, en fait, t'as créé un mot que t'emploies avec ton partenaire, ton conjoint. Du coup, ça devient un rituel dans ta relation. De la même manière qu'il y a des relations où, par exemple, tous les dimanches soirs, ils vont faire la même chose. C'est-à-dire qu'ils vont, se faire un ciné tous les dimanches soirs et ensuite, après le film, ils vont aller dîner dehors et puis ils vont discuter du film. Bah, ça reste un rendez-vous.
Il n'y a pas le risque de tomber dans une routine dans ce cas-là, par contre.
Oui, mais alors, voilà, en fait, c'est ça. C'est que toi, tes rendez-vous, les rituels sont intéressants. Toi, en fait, tu vois, dans ce que tu m'as décrit, il y a une forme de rituel parce que ça revient régulièrement. Ouais. Donc là, oui, en fait, il y a une forme de routine. Mais à l'intérieur de cette routine, j'imagine que tu fais des choses différentes à chaque fois.
Oui, tout à fait. Ouais.
Voilà. Tu peux varier. Et en fait, c'est très intéressant dans un couple d'avoir un peu les deux, d'avoir des rituels, des routines, en fait, des choses sur lesquelles on se retrouve et on sait qu'on va se retrouver et on sait que ça va être bon. Et en même temps, tu gardes un rendez-vous par semaine, je sais pas, le mercredi soir, le jeudi soir, selon un petit peu les activités que l'un ou que l'autre a imaginées. Mais en tout cas, ça, il faut que ça reste.
Ok, c'est très clair. Et alors, j'avais aussi questionné mes abonnés, parce que bien sûr, elles ont des questions. Donc, j'en ai une, elle est cadeau. C'est pourquoi un homme trompe sa femme alors qu'elle est belle, gentille, intelligente, elle le comble au lit, etc. Donc, celle-là, elle est vraiment...
Ça, c'est le problème. Ce genre de questions, elles sont jamais 100% honnêtes parce que la personne qui te la pose... elle manque forcément de recul. Moi je suis jolie, je suis géniale, pourquoi mon mec me trompe? Tu vois, il n'y a pas cet aspect extérieur qui nous permet d'observer un petit peu les deux protagonistes dans le couple de loin et de voir tous les mécanismes qui sous-tendent, en fait. Maintenant, pourquoi un mec va tromper sa partenaire? Première raison, niveau d'intérêt trop bas. Le niveau d'intérêt de ce mec est trop bas. Alors qu'il est encore en relation, la relation, l'entité relation n'a pas encore été dissoute. Là, on parle de rupture. Donc, la relation existe encore, l'entité relation existe. Mais lui, son niveau d'intérêt descendant fait qu'il s'est ouvert, il a commencé à aller faire de nouvelles rencontres. Et ces nouvelles rencontres ont donné lieu à des opportunités. Donc ça, c'est la première raison, c'est que son niveau d'intérêt est descendu. Ça, c'est très dangereux, parce que de toute façon, la clé de l'issue de ce truc, c'est la séparation.
Ouais.
D'accord ? Donc ça peut être une des raisons. Une autre raison, pourrait être que cet homme-là, depuis le départ, en tout cas en son fort intérieur, lui, il juge que c'est normal de tromper.
Ok.
Et le mec s'est construit comme ça. Il trouve ça, ça fait partie de sa construction, il trouve ça cool, il trouve ça normal, ça fait partie de ses valeurs. Un peu comme si toi, tu me disais, Laurita, bah moi, une de mes valeurs, c'est l'équité, c'est la justice. Eh ben, imagine que le mec, une de ses valeurs, dans sa tête, il se dit, c'est normal de tromper, il ne faut pas que les femmes le sachent, parce que quand elles le savent, bah, ça ne marche plus. Mais dans sa tête, il est persuadé que c'est normal, que c'est comme ça. Mon père trompait, mon grand-père trompait, tel héros dans tel film que j'adore trompe, tel acteur que j'adore trompe sa femme régulièrement. Et en fait, il s'est construit là-dessus.
Ok.
Et donc ça va être une raison, c'est-à-dire que le mec, il a vraiment deux visages. Il a ce qu'il pense pour lui, il a ce qu'il dit à la nana. Donc ça répondrait, enfin, tu vois, si, typiquement, ça répondrait bien à ta question telle que tu me l'as posée. Sinon, bien sûr, il y a évidemment, un homme peut tromper aussi parce que il y a une problématique sexuelle. Mais tu vois, dans ta question, elle n'est pas exprimée.
Ouais, elle dit comble au lit, mais bon, du coup, ça veut tout rien dire.
Oui, comblé au lit, alors ça c'est de son point de vue à elle. Est-ce qu'il est vraiment comblé au lit? Ça, on n'est pas là pour le savoir, mais c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à se remettre en question. C'est quoi un homme comblé au lit? Comment je sais qu'il est comblé au lit?
D'accord. Après, moi, ce que je rajouterais peut-être à ce que tu dis, c'est que je pense que par moment, quand ça fait très longtemps, tu vois, qu'on est en relation, on a un peu tendance à... Ça rejoint ce que tu disais, mais on a un peu tendance à un peu se laisser aller. Je dis pas prendre 60 kilos et tu vois. Mais on fait moins d'efforts, alors que comme tu disais, quand on va au premier rendez-vous, on donne tout. On se montre sous son meilleur jour, on est hyper positif, etc. Et de fil en aiguille, au bout d'un moment, dans la relation, parfois, on a tendance à peut-être se plaindre plus, etc. Et ça peut aussi peser, je pense, sur la relation.
Oui, bien sûr, la relation, elle peut s'abîmer, si je puis dire, de plein de manières. D'ailleurs, ça c'est un truc que j'ai souvent entendu de la part des hommes, c'est qu'en fait ils disent « Ah mais moi quand j'ai rencontré ma copine, elle faisait du sport, elle faisait attention, mais sur une longue période de plusieurs années, finalement, comme tu dis, si je prends par exemple cet exemple du corps et de la prise de poids, on va pas prendre 60 kilos, certes, mais peut-être qu'on va en prendre 10. C'est tout à fait possible. Et en fait, ça, c'est peut-être une femme qui, par exemple, faisait des efforts pour pouvoir rencontrer quelqu'un, mais elle les faisait pas véritablement parce qu'elle avait envie de les faire pour elle-même. Elle allait pas à la salle de sport. Si elle a arrêté comme ça, c'est qu'elle allait pas à la salle de sport pour elle-même parce que ça lui faisait plaisir. Elle aimait bien le sentiment que ça lui apportait. Elle aimait bien le corps que ça lui faisait. Elle y allait pour autre chose. Et cette autre chose ayant été trouvée, en l'occurrence ce mec, aller à la salle de sport n'était plus nécessaire. Donc oui, et d'ailleurs, ça, je parle, là, on a pris ça sous l'angle féminin, mais les mecs, c'est pareil. Les mecs, ils vont prendre du poids, etc., etc. Donc ça, mais ça n'explique pas, pas une tromperie.
C'est sûr, il y a quelque chose.
Voilà. Mais maintenant, effectivement, en fait, par contre, en fait, si tu veux, quand t'es dans ta relation, on a tendance à pas faire attention, en fait. Quand on est en couple depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, au final, il y a une espèce d'habitude qui s'installe et on ne voit pas les micro-changements. Ouais. Et d'ailleurs, on ne voit pas l'intérêt de l'autre personne diminuer.
C'est vrai.
Ben oui, parce qu'en fait, si tu veux, la relation, on part du principe qu'elle avance toute seule, tranquillement, elle suit son cours. Tu vois, un peu comme une voiture dont on aurait desserré le frein à main dans une pente douce et puis il n'y a pas besoin d'essence, il n'y a pas besoin de machin, ça roule tout seul en fait. Mais en réalité, il se passe des choses. Il y a des conflits qui doivent être adressés, il y a des discussions qu'il faut avoir. L'intimité sexuelle, il faut l'entretenir. Rien que sur cette, j'en ai parlé récemment dans une vidéo. Juste adresser en fait les choses qui ne vont pas. Il faut pas sa relation. Il ne faut pas avoir peur de sortir, de relever les manches et d'aller au fond des choses et de dire tiens, là il y a un truc, il faut que j'en parle. Il y a un problème, il faut que j'en parle. Il faut l'éprouver la relation. Si on l'éprouve pas, à un moment donné, on va avoir un souci.
D'accord. Ouais, la communication, c'est la clé.
Il faut discuter sur des bases régulières des choses qui vont bien et des choses qui ne vont pas bien. La relation, elle doit vivre, elle doit avancer, et donc il doit y avoir un peu. C'est un peu comme des réunions de, tu vois, un peu comme si tu avais une société. Ouais, t'as une société. C'est une société à deux actionnaires en fait, une relation. On va se réunir quand on a une société, on prend des décisions pour la société. On regarde les chiffres, on dit ce qui va, on dit ce qui va pas. Dans une relation, c'est la même chose. Sauf que bien sûr, c'est différent. On va parler avec nos émotions. On dit ce qu'on ressent, qu'est-ce qu'on aime bien, qu'est-ce qu'on aime pas. Et ça, c'est un truc qu'il faut apprendre à faire.
Il y a plein d'émotions qu'on n'arrive pas à nommer parce qu'on n'a jamais appris. Et des fois, ça mène à des quiproquos et c'est dommage. Donc je pense qu'il faut effectivement faire l'effort d'utiliser les mots justes aussi.
Ouais. Et il faut évidemment, tout le monde n'a pas cette capacité à déclencher ce genre de discussion et à pouvoir se dire tiens, qu'est-ce que je ressens, et ensuite de pouvoir le nommer, le verbaliser. Souvent les gens se jettent des trucs dans la tronche. Tu vois, t'as encore fait ça, t'as encore laissé traîner ton truc. Et en fait, on démarre tout de suite sur quelque chose de... En fait, au lieu de nommer le fond du problème, tiens, je prends par exemple l'exemple du bordel. Tu vois, l'exemple du bordel, t'as deux personnes qui vivent ensemble. Ces deux personnes, elles ont une sensibilité différente à la notion d'ordre, en fait. Par exemple, peut-être que toi, Laurita, t'es une personne pour qui c'est hyper important que les choses soient ordonnées, rangées. Il faut qu'il y ait un minimum d'ordre, sinon tu ne te sens pas bien. Et peut-être que ton partenaire, pour lui... Au contraire, il aime bien quand il y a un petit peu de chaos. Il se sent un peu plus chez lui, il se sent plus à l'aise, et il aime pas quand tout est rangé. Donc tu vois, là, on a deux personnes, en fait, qui ont des sensibilités différentes. Quand il y a du bordel, toi, tu risques d'être la première irritée par le bordel.
C'est sûr.
Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Tu risques que la première, en fait, au début, si tu ne nommes pas les choses, tu vas encaisser. Donc, ça va t'énerver jusqu'à un certain stade. Et comme tu n'as pas nommé les choses, au moment où ça va sortir, ça va être trop brutal et trop violent, que va-t-il se passer? Tu vas faire une remarque à ton partenaire, tu vas dire « Ouais, j'en ai marre, là, là. » Et en fait, lui, ça va sortir de nulle part, mais il va pas entendre la demande qu'il y a à l'intérieur de ta plainte. Parce que ce que tu exprimes, au fond, dans ta plainte, c'est de dire « Je ne me sens pas bien avec tout ce bordel et j'ai besoin que tu m'épaules pour ranger parce que ça me coûte, ça me crée de la charge de ranger. » Lui, il va pas entendre ça. Parce qu'il y a eu un démarrage abrupt, lui, il va entendre ça comme une attaque. Il va répondre avec son ego. Il se dit, elle me fait mal, je vais lui faire mal. Et lui, il va te répondre, et on en parle de la fois où tatatitatata. Il va te répondre comme ça. Et en fait, tout de suite, en fait, on n'est plus en train d'adresser le problème. On est en train de se disputer. Finalement, le problème n'est pas réglé quand on fait ça. C'est pour ça que c'est important de nommer les choses sur des bases régulières avant que ça devienne quelque chose de dangereux. Au début, on se dit « Oh, je vais pas le faire » parce qu'en fait, c'est inconfortable, ce genre de discussion. L'inconfort de dire à son mec ou à sa copine, de dire « Voilà, il y a de ça dont il faut qu'on discute », c'est très inconfortable. Donc en fait, on préfère ne rien faire et encaisser. Dans un premier temps, ça nous paraît plus confortable. Sauf que à un moment donné, après 2-3 mois, on peut plus encaisser. Et là on met la relation en danger.
C'est sûr. Non, mais c'est clair. Et puis, je pense que beaucoup de personnes vont se retrouver dans ce que tu viens de dire. Et y avait un autre point, juste rapidement, que je voulais aborder avec toi. C'est que souvent, les gens, enfin, en tout cas, les personnes avec qui je parle, elles attendent de leur conjoint qu'ils les rendent heureuses, tu vois, ou heureux, d'ailleurs, parce que c'est dans les cas. Et tu vois, en fait, ils se disent, il ne me comble pas, ou elle ne me rend pas heureuse. Mais en fait, ce que je pense, c'est que vraiment, il faut déjà se combler soi-même, tu vois, parce qu'en fait, des fois, on en met beaucoup trop sur les épaules de l'autre, et résultat, bah, en fait, l'autre, il ne peut pas, en fait, il n'a pas juste le pouvoir de te rendre heureuse, c'est toi qui te rends heureuse et qui vois avec lui si vous avez les mêmes ambitions dans la vie, quoi. Et je sais pas si t'as ce genre de cas, des fois, où les personnes en mettent beaucoup trop sur les épaules des hommes ou des femmes, d'ailleurs.
Ouais, bien sûr, ça part, en fait, c'est-à-dire que on pourrait imaginer quelqu'un, enfin, une personne célibataire se dit que globalement, l'amélioration de sa vie va venir de l'autre partenaire, va venir d'une rencontre et puis d'un partenaire en étant en couple, et que c'est lui qui va apporter ce qui me manque. En réalité, non, il va rien apporter du tout. Moi, je pense qu'en fait, l'objectif, ça doit pas être mon mec va me rendre. J'imagine une femme du coup. L'objectif, ça peut être mon mec doit me rendre heureux. Dans un premier temps, l'objectif, c'est cette relation ne doit pas me rendre malheureuse.
C'est déjà bien.
C'est un meilleur objectif, en fait, au final. Parce qu'il y a plein de gens qui se mettent dans des relations qui les rendent malheureuses.
C'est vrai.
Qui vont avec des personnes toxiques, qui vont accepter un manque de respect, etc. etc. Donc le premier truc, c'est cette relation ne doit pas me rendre malheureuse. Maintenant, j'arrive moi-même, je fais en sorte moi-même de subvenir, de me créer des conditions de vie qui sont idéales. Je n'attends pas que ce soit l'autre qui me les apporte. Je me crée des conditions de vie idéales et je vais partager ça avec mon partenaire. Et donc là, je vais avoir du positif dans ma relation.
Ouais, non, c'est sûr. Et alors, dernière question, parce que je pense que tu vas devoir y aller. Dernière question qui est de la part de mes abonnés aussi, c'est pourquoi les hommes n'assument pas leurs erreurs, d'après toi? Et comment comprendre un homme au global, finalement?
il y a une forme de, fierté, d'ego, de pas vouloir, en fait. C'est une situation qui est toujours difficile pour les mecs de dire, excuse-moi, j'avais tort, j'ai merdé, tu avais raison.
Ouais.
C'est quelque chose qui est pas facile. Et je dirais qu'en fait, pour pouvoir avancer sereinement avec son mec, ce qu'il faut comprendre, c'est que on n'a pas la même capacité à dialoguer avec nos émotions, à les verbaliser ensuite à l'autre. Il suffit de voir en fait comment les hommes et les femmes se construisent, parce qu'ils se construisent différemment. Si tu regardes des enfants, moi quand j'étais plus jeune, j'ai travaillé avec des enfants, puis ensuite des collégiens et des lycéens, et tu regardes en fait les enfants dans la cour de récréation, et tu vois que déjà en fait il y a des grandes différences dans les jeux auxquels ils participent. Les hommes vont être très orientés. À quoi jouent les petits garçons? Ils vont jouer aux policiers, aux voleurs, à des jeux en fait qui sont vraiment orientés sur de l'action. D'accord? À quoi vont jouer les filles? Elles vont jouer à des jeux où en fait il se passe des choses. C'est des jeux en fait qui déjà préparent qui entraînent en fait aux relations, qui entraînent en fait. Tiens, par exemple quand tu joues à la poupée. Je prends un exemple tout bête, quand tu joues à la poupée, ben en fait, ah, moi je suis la poupée, toi t'es la maman, il y a du jeu de rôle en fait là-dedans. Les hommes vont pas vers des jeux de rôle. Eux, ils ont un rôle dans leur jeu, mais c'est tout de suite pour aller sur de l'action, sur de la vitesse, courir, sauter, etc. Donc, alors ça c'est une généralité que je fais, mais toute personne qui va aller observer des enfants de 5 ans à 18 ans va vérifier cette généralité-là. Du coup, ça explique que les mecs, en fait, ont quand même un certain retard en fait dans leur capacité à accéder à leurs émotions, leur capacité à les nommer, ne serait-ce que pour eux-mêmes, ensuite à les verbaliser et à ne pas se faire bouffer par leur ego dans leur relation. Donc en fait, il faut prendre en compte ce retard-là. Tu vois, un peu comme si tu avais quelqu'un, tu te disais, bah, cette personne, elle est, tiens, bah, moi j'arrive à courir pendant une heure à 12 km/h, bah, cette personne, elle a un peu de retard. Elle arrive à courir, mais pas à 12 km/h pendant une heure. Elle arrive à courir à 9-10 km/h. Il faut, les filles, si vous m'écoutez, n'oubliez jamais ça. Alors, bien sûr, il y a des mecs qui, eux, vont être, au contraire, très, tout dépend de leur construction, de ce qu'ils ont fait après, mais qui vont être très à l'aise. Il y en a qui ont rattrapé ce retard ou qui ne l'ont pas eu parce qu'ils ont eu une façon de grandir idéale. Mais partez de ce principe et puis dites-vous que, voilà, il faut faire preuve de patience. Il faut se dire que les hommes mettent un temps plus long à accéder à leurs émotions. Que parfois ils vont ressentir un truc, mais que l'expression de ce qu'ils vont ressentir, bah, là où pour une nana ça va peut-être prendre 10 minutes, ça va peut-être prendre 2 jours. Et à partir de, tu vois, un homme va peut-être pouvoir livrer ses excuses, mais à froid. Il va pouvoir peut-être assumer sa connerie, mais pas tout de suite. Dans les histoires de mes abonnés, c'est toujours quelque chose qui revient, c'est qu'en fait la réaction du mec vient en retard. Mais cette réaction en retard vient du fait qu'émotionnellement, il est déjà lui-même en retard. Il a mis du temps à accéder, un petit peu comme si, il y a une image que j'aime bien donner, c'est un petit peu comme si la femme, en fait, pour accéder à ses émotions, elle avait simplement à prendre un ascenseur et à faire un étage, donc elle y accède tout de suite, presque instantanément, elle peut nommer, elle peut verbaliser, etc., et elle peut jongler avec ses émotions. Dis-toi qu'en fait, lui, le mec, il doit monter 6 étages, ensuite il doit badger, il doit passer un tourniquet, et là seulement il va pouvoir accéder aux émotions. Mais dans un premier temps, tu vas pas y avoir accès. Ce qui fait que sa relation paraît toujours un petit peu en retard, et il faut parfois attendre que les choses redescendent un tout petit peu, laisser un tout petit peu de temps, un tout petit peu d'espace, et là souvent tu vas avoir la réaction qui va être attendue.
Ouais, d'accord. Voilà.
Je pense que c'est un conseil qui n'est pas dangereux à suivre. La patience de toute façon est une qualité indispensable dans les relations amoureuses.
C'est vrai. Tu as bien résumé que communication et patience, c'est important, et remise en question aussi.
Bien sûr.
Mais merci beaucoup pour ce moment.
Eh bien, il n'y a pas de souci, Laurita, c'était un plaisir.
Merci.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.